Chapitre 71. Laissant derrière lui les rugissements des fauves et le vacarme des épées, Masque-Miroir accéléra le pas. Que Nietzsche finisse donc le travail ici. Elle avait la motivation idoine et tout le pouvoir requis. Lui, il allait se consacrer à une tâche moins domestique. Avec les bêtes de combat en liberté, prêtes à tuer tout ce qui bougeait, le conseil devrait réagir, et Thora aussi, même si elle faisait mine de rester au-dessus de la mêlée. À cause des émeutes, la Sovréna renoncerait sûrement au rituel prévu dans la nuit. Une bonne chose, car le chef des rebelles refusait que sa ville soit de nouveau mise sous l'été noir pendant des siècles, voire pour l'éternité. Si ça arrivait, le peuple, son peuple, ne vaudrait guère mieux qu'un banc de poissons tournant indéfiniment dans un aquarium géant, et la stagnation d'Ildakar avait assez duré. Même si les animaux et les esclaves libérés risquaient de semer une belle panique, Masque-Miroir avait un plan plus ambitieux. La magicienne n'avait pas vu assez grand. Avec son idée, il allait provoquer la terreur. Les mains sur son masque brisé, le chef des rebelles mobilisa juste ce qu'il fallait de magie pour recoller les morceaux. Ainsi, le miroir serait en une seule pièce, même si les fissures se verraient toujours. Trop pressé pour faire mieux que ça, il guérit ses coupures afin qu'elles ne saignent plus. Pour la cicatrisation, il verrait plus tard. S'engageant dans un nouveau tunnel latéral en quête d'une sortie, il fut agressé par une atroce odeur de viande pourrie. C'était par là, comprit-il, que les esclaves faisaient transiter les bas morceaux réservés aux animaux. Mais ce soir, il n'y avait plus personne en vue. Sans doute parce que la plupart de ces gens allaient rallier son camp. Ses partisans, Masque-Miroir les distinguait à peine les uns des autres. Masse anonyme, il n'était qu'un outil pour lui, l'instrument au service de son projet. Partout en ville, des cloches sonnaient. Pas pour indiquer l'approche du rituel, mais pour rameuter la garde. Encore en train de s'équiper, des soldats devaient courir dans tous les sens et tomber dans les traquenards tendus par des rebelles armés de massues improvisées ou d'épées volées. Quand il fut enfin dehors, Masque-Miroir constata que les choses se déroulaient exactement comme prévu. S'ils n'avaient pas le don, les soldats, très bien armés, avaient en plus bénéficié d'un entraînement parfait, deux avantages que les esclaves n'avaient pas. En revanche, Masque-Miroir, avec la contribution de Nietzsche, il fallait l'avouer, avait fourni aux rebelles une arme précieuse. Leur colère, leur indignation et leur soif de vengeance faisaient d'eux des combattants prêts à mourir pour la victoire, une motivation que n'avaient certainement pas les gardes, bien trop installés dans leur petit confort. Certain qu'on devait se battre à mort dans toutes les rues, le chef des rebelles sourit sous son masque hâtivement réparé. Rasant les murs, il resta dans les ombres, attentif à ne pas se faire voir. Cette révolution, tout bien pesée, était un spectacle bien plus distrayant que tous les combats organisés dans l'arène. Connaissant la cité comme sa poche, Masque-Miroir remonta une série de venelles, traversa des jardins et escalada même quelques murs pour atteindre au plus vite la somptueuse demeure d'André. En passant par derrière, il lui serait facile d'entrer. Avec son don, il neutralisa sans difficulté l'essor de garde du sorcier de chair. En revanche, les épines des haies se révélèrent délicates à négocier. La tunique de Masque-Miroir fut vite constellée d'accrocs, le genre de manquement à l'élégance qu'il abominait, mais l'essentiel après tout c'était d'entrer. Le sorcier déchu Nathan, il le savait, subissait toujours de mystérieuses expériences dans le studio d'André. Contre toute attente, il avait survécu à une substitution de cœur des plus répugnantes. Restait à savoir si ça lui rendrait son don. Rien n'était moins sûr, tous ces efforts et toute cette souffrance risquant d'avoir été inutiles. Nathan Rahl serait-il un ami ou un ennemi? Tant que le vieil homme n'aurait pas recouvré sa magie, cette question n'aurait aucune pertinence. Mais la visite chez André du chef de la rébellion n'avait rien à voir avec Nathan. Des lumières brûlaient un peu partout dans la grande maison. Sans nul doute, André se préparait pour l'œuvre de sang. Eh bien qu'il se prépare! Face à la surprise que lui réservait Masque-Miroir, il ne serait jamais prêt. Une des ailes était obscure, les fenêtres et les jours du plafond voilés par des tentures. Si André avait baptisé studio l'antre où il faisait ses expériences, l'aile entière aurait mérité le surnom de galerie, l'endroit où il exposait ses plus belles œuvres. Masque Miroir attendait ce moment depuis longtemps. Seul dans l'aile obscure, il capta pourtant la présence d'un fabuleux pouvoir. Dans l'air, il sentit de la colère et de l'impatience. Invoquant une flamme de paume, il l'envoya volter près d'un mur afin qu'elle éclaire les trois géants en armure immobiles dans un coin. Les Xax. Masque Miroir devina qu'ils étaient conscients de sa présence. Derrière la fente de leur casque, leurs yeux jaunes brillaient. Prisonniers depuis 1500 ans, ces titans continuaient à bouillir de rage. « Patience, patience !» souffla Masque Miroir. « Nous y sommes presque !» Regardant par les fentes de son masque, le chef des rebelles se demanda si les géants voyaient leur reflet dans son miroir. Et pourquoi pas après tout? Se campant devant le premier géant, Masque Miroir souffla. « Toutes mes excuses aux deux autres, mais un seul guerrier suffira pour ce que j'ai à l'esprit. » Sur l'armure cloutée du titan, Masque Miroir reconnut les armes d'Ildakar, un soleil zébré d'éclairs. À l'époque, André était un fervent patriote. Ces géants, il les avait créés afin qu'ils fauchent les soldats d'Outros comme des épis dans un champ de blé. Redoutant que ces machines à tuer soient incontrôlables, les autres sorciers avaient interdit à André d'en produire plus de trois. Le sort de pétrification puis le linceul de l'éternité avaient rendu obsolètes les infortunés Xax. Tendant une main, Masque Miroir localisa très vite une rune gravée sur le plastron du premier titan. Avec son don, il désactiva le sort qui paralysait le géant, l'engluant dans une sorte de cocon. En d'autres termes, il brisa les fers qui retenaient le guerrier prisonnier. Alors qu'une lueur apparaissait dans la salle, Masque Miroir recula. « Réveille-toi, » dit-il, « et fais ce que tu as été conçu pour faire. » En matière de panique, le guerrier réussirait beaucoup mieux que tout ce que ses rebelles pouvaient espérer. Alors que le titan, enfin réveillé, pliait ses bras puis ses jambes, Masque Miroir s'éclipsa. Toute la journée, Elsa était restée avec Nathan pour accélérer sa réhabilitation. Afin de lui redonner confiance, elle lui avait fait réaliser des exercices de base, les fondamentaux de la magie en somme. De temps en temps, l'ancien sorcier réussissait, mais il se passait souvent des choses bizarres, voire rien du tout parfois. Et la patience, c'était connu, ne comptait pas parmi les vertus d'André.
« Si ce fiasco se confirme, je vais devoir te trouver un nouveau cœur, »
maugréa-t-il. À cette idée, Nathan devint blanc comme un linge.
« Non, je continuerai d'essayer et ça finira bien par me débloquer. » « N'est-ce pas, Elsa ?»
Plus qu'une question, un appel au secours.
« Il faudra bientôt arrêter, » rappela André, « parce qu'on nous attend à la pyramide. L'œuvre de sang est pour minuit. Nathan, si ça te chante, tu peux nous accompagner. Tu n'auras pas le droit de participer, mais ce sera une source d'inspiration. »
L'invitation ne parut pas enthousiasmer l'ancien prophète. À cet instant, un rugissement retentit, rappelant celui d'un ours qui se réveille dans une grotte.
« Que se passe-t-il encore ?»
s'écria André, exaspéré. Il avait entendu les cloches, puis des cris montant de la direction de l'arène. De nouveaux troubles, à l'évidence. D'autres animaux relâchés, peut-être. Décidément, la ville était de moins en moins sûre. Mais André avait du travail chez lui, et l'œuvre de sang à venir passait avant tout. Sauf que là, le vacarme venait de son propre fief. Alors qu'il se mettait en chemin, Nathan et Elsa firent de le suivre, mais il les en dissuada d'un geste puis de la voix.
« Restez ici !»
Un frisson glacé courant le long de son échine, le sorcier de chair gagna la salle d'où était monté le cri.
« Que se passe-t-il »
lança-t-il en entrant dans la galerie où il exposait les Xax.
« Par la barbe du... »
Deux guerriers géants étaient à leur place, immobile comme depuis 15 siècles. Le troisième, en revanche, avançait en titubant sur des jambes plus grosses que des troncs d'arbres. André en resta bouche bée. Tournant lentement la tête, le titan riva les yeux sur son créateur et son tortionnaire. André recula, puis leva les mains et invoqua son don. Les poings serrés, le géant chargea. Un mur d'air se dressa devant l'Ixax, qui le traversa sans peine et continua à fondre sur le boucher qui avait choisi 3 soldats, de braves conscrits résolus à défendre leur ville, pour leur voler leur vie et les condamner à une attente éternelle. Sans scrupule, André avait utilisé du matériel humain pour créer des super-guerriers, capables de sauver Ile-Dakar, mais qui avaient terminé au rebut sans jamais avoir servi. Une condamnation tout simplement à 1500 ans de tourment. Mais c'était terminé, et le titan fêta sa libération en défonçant un mur d'un coup de poing. Pour s'encourager, il hurla de nouveau à la mort. Sans hésiter une seconde, André bombarda le monstre de feu de sorcier. Roussissant le plastron du guerrier, les flammes se volatilisèrent en quelques secondes. Le titan se campa devant son créateur, prêt à lui demander des comptes. Affolé, André déchaîna toute sa magie. Face à ce déluge de feu, d'éclairs et d'air, Lyxax ne dégaina même pas son épée. Levant simplement un bras, il abattit son poing ganté sur le responsable de ses malheurs. D'un seul coup, le titan écrasa André, ne laissant qu'une bouillie infâme sur les dalles. Il n'en resta pourtant pas là et frappa de nouveau pour transformer la bouillie en pulpe. À la fin, il ne resta plus rien. À part une tache rougeâtre sur le sol et des lambeaux de chair ou de cervelle un peu partout sur les murs et au plafond. Son œuvre accomplie, Lyxax se redressa. S'il avait enfin réglé son compte à André, ça ne compensait pas 15 siècles de souffrance. Créé pour détruire, il allait s'en donner à cœur joie jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Absolument rien.